Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été bouleversé par le mal incroyable qui a frappé un ancien ministre et un ancien secrétaire d'État, qui du jour au lendemain se sont trouvés incapables de payer leurs impôts. Non pas qu'ils n'avaient pas les moyens, mais psychologiquement, ils ne pouvaient pas payer leurs impôts. Situation terrible, admettez-le. Que on s'est dépêché de nommer, on a appelé ça la phobie administrative. Un mal redoutable, d'autant plus qu'on ne sait pas si c'est contagieux, on ne sait pas qui peut en être atteint, on ne sait pas s'il y a une guérison possible, alors même s'il y a un traitement. Comment être sûr que la Sécurité sociale prendra le remboursement de ce traitement en charge? C'est quand même un problème qui ne laisse pas de m'inquiéter. Mais j'ai regretté quand même qu'à l'occasion de cette découverte médicale de la phobie administrative qui empêche les gens de payer leurs impôts, on n'a pas pensé au sort des malheureux employés de bureau qui, tous les jours, désespérément, n'ont pas envie d'aller au travail, qui résistent contre ce besoin qu'ils ont d'aller jusqu'au bureau. C'est une situation épouvantable. Mais heureusement, là, un auteur dramatique, dès 1897, vous voyez bien que le problème ne date pas d'hier, s'est penché sur le problème. Cet auteur dramatique, c'est Georges Courteline. De son vrai nom, il s'appelait Georges Moineau. Ça ne s'invente pas. Il n'a pas pu garder son nom de Moineau parce que son père était déjà un chroniqueur humoristique pour la Gazette des Tribunaux. Alors, Georges Moineau, qui n'était pas encore Courteline, a été 14 ans fonctionnaire au ministère des Cultes. Et puis, il a décidé qu'il pouvait gagner sa vie autrement. Mais il s'est penché sur le sort de ces malheureux employés de bureau dont je parlais tout à l'heure, qui ne supportent pas justement d'aller au bureau. Et voici une de ces courtes pièces où il expose le problème. La pièce s'appelle « Monsieur Badin ». Ça se passe évidemment dans un bureau. Le directeur, c'est vous, Ovid ? Oui, monsieur le directeur. Est-ce que monsieur Badin est venu? Oui, monsieur le directeur. Monsieur Badin est là? Parfaitement. Réfléchissez à ce que vous dites, je vous demande. Si monsieur Badin, l'expéditionnaire du troisième bureau, est à son poste, oui ou non? Monsieur le directeur, il y est. Ovid, vous avez bu. Moi? Alors, avouez la vérité, je ne vous dirai rien pour cette fois. Monsieur le directeur, je vous jure, j'ai bu qu'un verre de coco. Le directeur, la présence de monsieur Badin au ministère constitue un tel phénomène, une telle anomalie. Enfin, nous allons bien voir. Allez me chercher, monsieur Badin. Bien, monsieur le directeur. Il sort. Le directeur est à son bureau, on frappe à la porte. Entrez ! Monsieur Badin, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Badin. Entrez donc, Monsieur Badin, prenez un siège, je vous prie. Je suis confus. Du tout, du tout. Dites-moi, monsieur Badin. Voilà près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. Oh, ne m'en parlez pas. Permettez. C'est justement pour vous en parler que je vous ai fait prier de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je. Près de 15 jours que vous avez mis le pied à l'administration, tenu au courant de votre absence par votre chef du bureau, inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. On lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Monsieur, on lui a menti. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, monsieur Badin. Fort bien, ne vous excitez pas ainsi, monsieur Badin. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore ? Ah ça, monsieur Badin, est-ce que vous fichez de moi ? À 7 heures, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà il y a 3 semaines, vous avez perdu votre tante. Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques, sans préjudice naturellement de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés, que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un au moins la semaine. Quel massacre ! Non, mais quel massacre ! A-t-on idée d'une boucherie pareille ? Et je ne parle pas ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous manquez du monde, soit. Mais il y a des limites à tout, et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs par pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres, ou à tenir sur les fronts baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur le directeur, taisez-vous. Vous parlerez quand j'aurai fini. Vous êtes ici 3 employés, attachés à l'expédition. Vous, monsieur Soupe et monsieur Ferbattu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service. Il n'y a plus à attendre de lui que l'épreuve de sa vaine bonne volonté. Quant à monsieur Ferbattu, c'est bien simple. Il place des huiles en province. Alors quoi ? Car voilà pourtant où nous en sommes. Il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce et le troisième à l'enterrement depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train ? Non, monsieur Badin. 100 fois non, j'en suis là, moi, des enterrements, des mariages, des baptêmes. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission, choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte à l'instant même, est-ce clair ? Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup de 10 heures, et ceci à partir de demain. Est-ce clair ? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair ? Ah ! Vous me faites bien de la peine, monsieur le directeur. À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas content. Allons donc, mais vous vous trompez. Je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez moi, monsieur Badin. Je suis une dame si traîtresse qu'un silage dessin. Si, monsieur. Vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire, pour rire. Ha ! Dieu vous garde, monsieur, de vivre jamais un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Pourquoi cela ? Écoutez, monsieur, avez-vous jamais réfléchi au sort du pauvre fonctionnaire qui systématiquement, opiniâtrement, ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mis à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre. Eh bien, monsieur, c'est une chose épouvantable et c'est là ma vie, cependant. Je vous propose une première pause musicale. Tous les matins, je me raisonne, je me dis, va au bureau, badin, voilà plus de 8 jours que tu n'y es allé. Je m'habille alors et je pars. Je me dirige vers le bureau, mais oui, j'entre à la brasserie. Je prends un boc, 2 bocs. 3 bocs. Je regarde marcher l'horloge, pensant, quand elle marquera l'heure, je me rendrai à mon ministère. Malheureusement, quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Le directeur, et quand elle a marqué la demi, vous donnez le quart d'heure de grâce. Monsieur Badin, parfaitement. Après quoi je me dis, il est trop tard, j'aurai l'air de me moquer du monde, ce sera pour une autre fois. Quelle existence, quelle existence. Moi, qui avais un si bon estomac, un si bon sommeil, une si belle gaieté, je ne prends plus plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets, avec la peur incessante de rencontrer un de mes chefs. Si je rentre, c'est avec l'idée que je vais trouver chez le concierge ma arrêté de révocation. Je vis sous la contrainte du renvoi comme un patient sous le couperet. Ah, Dieu! Le directeur. Une question, monsieur Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement? J'ai bien le cœur à la plaisanterie. Mais réfléchissez donc, monsieur le directeur. Les 3 000 francs qu'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Que deviendrai-je le jour inévitable, hélas, où on ne me les donnera plus? Quand enfin, je ne me fais aucune illusion, j'ai 35 ans. Âge terrible où le malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à l'espoir de le retrouver jamais, oui, oh. Ce n'est pas gai, tout cela, aussi. Je me fais un sang. Monsieur, j'ai maigri de 20 livres depuis que je ne suis jamais au ministère. Il relève son pantalon. Regardez plutôt mes mollets, si on ne dirait pas des bougies. Et si vous pouviez voir mes reins, des vrais reins de chat écorchés, c'est lamentable. Tenez, monsieur, nous sommes entre hommes, nous pouvons bien nous dire cela ce matin. J'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. Eh bien, j'en suis encore malade rien que d'y penser. Quel spectacle! Un pauvre petit derrière de rien du tout, gros à peine comme les deux poings. Je n'ai plus de fesses, elles ont fondu. Le chagrin, naturellement. Les angoisses continuelles. Les affres, avec ça. Je tousse la nuit, j'ai des transpirations, je me lève des 5 à 6 fois pour aller boire au pot à eau. Ah, ça finira mal tout cela, ça me jouera un mauvais tour. Le directeur ému. Eh bien, mais venez au bureau, monsieur Badin. Impossible, monsieur le directeur. Pourquoi? Je ne peux pas. Ça m'embête. Si tous vos collègues tenaient ce langage, je vous ferai remarquer, monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre moi et mes collègues. Mes collègues ne donnent au bureau que leur zèle, leur activité, leur intelligence, leur temps. Moi, c'est ma vie que je lui sacrifie. Ah ! Tenez, monsieur, ce n'est plus tenable. Le directeur se levant, c'est assez mon avis. Monsieur Badin se levant également, n'est-ce pas? Absolument. Remettez-moi votre démission, je la transmettrai au ministre. Ma démission? Mais monsieur, je ne songe pas à démissionner. Je demande seulement une augmentation. Comment? Une augmentation? Dame, monsieur, il faut être juste. Je ne peux pourtant pas me tuer pour 200 francs par mois. J'espère que cette aventure d'un malheureux fonctionnaire empêché de venir au bureau vous aura touché autant qu'elle m'a ému la première fois où je l'ai entendu. Je vous propose une deuxième pause musicale. Courteline, d'ailleurs, ne s'intéressait pas uniquement aux fonctionnaires. Il a pris un malin plaisir tout au long de sa vie à écrire des petites pièces en un acte, parfois très courtes, mettant en scène des disputes conjugales. Parmi les plus connues, je vous en propose une qu'il a écrite assez tardivement, en 1920, et qui s'appelle « Le Gora ». On est dans un appartement, il y a Bobéchotte et Gustave. Bobéchotte. « Trognon, je vais bien t'épater. Oui, je vais t'en boucher une surface. Sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau ?»« La concierge. » »« Peste, tu as de belles relations, tu ne m'avais jamais dit ça. » Ne chine pas la concierge, Trognon. C'est une femme, tout ce qu'il y a de bas, à preuve qu'elle m'a donné, devine quoi ? Un gora. La concierge t'a donné un gora. Oui, mon vieux. Et qu'est-ce que c'est que ça, un gora ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un gora ? Ma foi, non. Mon pauvre Trognon, je savais un peu poire, mais à ce point-là, je n'aurais pas cru. Alors, tu ne sais pas qu'un gora, c'est un chat ? Ah, un angora, tu veux dire. Comment ? Tu dis un gora. Naturellement, je dis un gora. Eh bien, on ne dit pas un gora. On ne dit pas un gora. Non. Qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit un angora. Depuis quand ? Depuis toujours, tu crois ? Oh, j'en suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un gora. Si elle dit un gora, c'est qu'on doit dire un gora. Tu n'as pas besoin de rigoler, je la connais mieux que toi, peut-être. Et c'est encore par toi, avec tes airs malins, qui lui fera le poil pour l'instruction. Elle est si instruite que ça. Ah, tout ce qui se passe dans la maison, c'est par elle que je l'ai appris. C'est une raison, je le reconnais. Mais ça ne change rien à l'affaire. Et pour ce qui est de dire un angora, sois sûr qu'on dit un angora. Je dirai ce que tu voudras, Trognon. Ça m'est bien égal. Ça m'est bien égal, après tout. Et si nous n'avons jamais d'autre motif de dispute. C'est évident, n'est-ce pas, sans doute. Le tout, c'est qu'il soit joli, hein. Qui ? Mais le petit Nangora que m'a donné la concierge. Et à cet égard-là, il n'y a pas mieux. Un vrai amour de petit Nangora. Figure-toi, pas plus gros que mon poing, avec des souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau de vie, et un boudic pointu, comme l'été noir de ma grand-mère. Oh mon Dieu, quel beau petit Nangora! Je vois au portrait que tu montres ce qui doit être en effet très bien. Une simple observation, mon loup. On ne dit pas un petit Nangora. Tiens, pourquoi donc ? Parce que c'est du français de cuisine. Ah ben, elle est bien bonne, celle-là. Je dis, comme tu m'as dit de dire. Oh, mais pas du tout. Je protège, je t'ai dit de dire un Nangora, mais pas un petit Nangora. Que dans le premier cas, la du mot angora est précédée de la lettre N, tandis que c'est la lettre T qui termine le mot petit. Ah, oui. En voilà des histoires. Et qu'est-ce que je dois dire avec tout ça ? Tu dois dire un petit angora. C'est bien sûr, au moins. N'en doute pas. Il n'y a pas d'erreur. Sois tranquille. Je tiens à être fixé, tu comprends. Tu l'es comme avec une vis. N'en parlons plus. Bon, maintenant, je voudrais ton avis. J'ai envie de l'appeler Zigoto. Excellente idée. Il me semble. Je trouve ça épatant, n'est-ce pas ? C'est simple, gai, sans prétention, et c'est facile à se rappeler. Ça fait rire tout le monde. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, je crois que pour un tangora, le nom n'est pas trop mal trouvé. Pour un quoi ? Pour un tangora. Ce n'est pas pour te dire des choses désagréables, mais même quand t'en suis, que j'ai la peine à me faire comprendre. Fais donc attention, sapristi, je ne dis pas un tangora. Ça va durer longtemps, cette plaisanterie-là. Permets. Je n'aime pas beaucoup qu'on s'offre ma physionomie. Si tu es venu dans le but de te payer mon portrait, il vaudrait mieux me le dire tout de suite. Tu t'emballes, tu as bien tort. On dit un angora, un petit angora ou un gros angora. Il n'y a pas de quoi fouetter un chien. Tu ne vas pas te fâcher pour une question de liaison. Liaison ! Ah ! Une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages d'abord. Et puis, si ça ne te suffit pas, épouse-moi. Est-ce que je t'en empêche, mal appris, grossier personnage, moi ? D'ailleurs, tout ça c'est de ma faute. Je n'ai que ce que je mérite. Si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je m'étais payé ton portrait comme les 9/10 des grenouilles que tu as gratifiées de tes faveurs, tu te garderais bien de te payer le mien aujourd'hui. C'est toujours le même raisonnement, je ne te crains pas, je t'enquiquine, quelle dégoûtation. Bon Dieu, heureusement qu'il est encore temps. Hein ? Comment, mais qu'est-ce que tu dis, il est encore temps, temps de quoi ? Ah ! Je me comprends, c'est le principal. Vois-tu, c'est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme. De plus malins que toi ont trouvé leur maître. Parfaitement. Je t'en flanquerai, moi, du Zangora. Et, pour nous quitter sur un dernier sourire à la Courteline, une rapide parenthèse s'appelle Cumul. L'employé de ministère, bonjour monsieur le directeur, me voici enfin de retour, ma première visite est pour vous. Ah, c'est vous monsieur le fonctionnaire. À vrai dire, je ne pensais plus que l'on dût jamais vous revoir depuis 3 mois que vous êtes absent. 3 mois déjà ? Oh, comme le temps passe. Non mais je vous admire. 3 mois durant sans autorisation, vous absentez de la maison qui vous paie, le jour où vous décidez à reparaître, voilà ce que vous trouvez à dire, comme le temps passe. N'est-ce pas votre avis ? Mon avis est que l'on vit rarement audace comparable à la vôtre. Allons donc. Et le ministre lui-même n'est pas loin de partager cette manière de voir. Cet employé devient discret à la fin, on ne s'absente pas 1 mois, 3 mois sans donner signe de vie. D'abord, c'est à peine qu'on l'a, et puis on pourrait avoir besoin de lui. L'employé, besoin de moi ? Le directeur, oui. Un employé, pourquoi faire ? Vous vous moquez de moi, en aucune façon. Voyons raisonnablement. À quoi est-ce que nous sommes bons ? Vous, moi et les milliers de messieurs qui vivent du budget des administrations ? À rien du tout. Vous le savez parfaitement. Qu'à compliquer un tas d'affaires qui iraient toutes seules sans cela. Ne voilà-t-il pas de la belle besogne ? Assez, je vous prie. Vous n'êtes pas ici pour faire la critique d'une maison qui vous fait vivre, mais pour la servir de votre mieux. Vous avez sur votre bureau plus de 200 affaires en retard. Tant que ça. Oui, monsieur. Allons, allons, ne vous emportez pas. Je vais vous donner un coup de collier et vous enlever ça en 5 secs. Dites que je ne suis pas un gentil garçon. D'ailleurs, ce me sera facile, je suis pour 8 jours à Paris. Pour 8 jours ? Vous ne songez sans doute pas à redisparaître ? Ben, il faudra bien. Je suis voyageur de commerce, moi. Sans doute, j'ai fait les huiles en province. Voyons, vous n'auriez pas besoin d'un bon petit colza épuré ? Je vous remercie de m'avoir écouté.